Merci Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous. Mes questions de ce matin portent sur les paragraphes 15, 17 et 22. Je commencerai par évidemment le paragraphe 15, élimination de l'esclavage, de la servitude et de la traite d'êtres humains. L'État parti nous informe à propos des mesures prises pour lutter et prévenir contre la traite d'êtres humains, aussi bien dans le rapport périodique que dans ses réponses à la liste de points et de questions, ont été assez complètes et nous les remercions. Mais il semblerait que l'information fournie met l'accent sur les mesures institutionnelles et juridiques, mais n'est pas claire à propos de savoir si ces mesures ont atteint leur but concrètement. En matière de prévention et de réduire la traite dans l'État parti. D'après les rapports du comité, l'État parti est la source et la destination pour des femmes, des hommes et des enfants qui sont sujets à un travail forcé à l'intérieur du pays, mais surtout des femmes et des filles qui proviennent du Brésil, de Cuba, de la République dominicaine, d'Haïti et du Venezuela. Est-ce que l'État parti peut nous donner des informations à propos des mesures prises pour mettre en œuvre une stratégie anti-traite solide comme celle reflétée dans la stratégie nationale pour lutter contre la traite en avril 2014. Quelles mesures avez-vous prises pour former le service judiciaire, la police aux frontières, pour mieux protéger et identifier les victimes de traite, les personnes qui ont besoin de protection internationale, qui pourraient être également victimes de traite? Quelles mesures a pris l'État pour fournir les alternatives à l'expulsion pour les victimes de la traite? Pouvez-vous nous donner des données statistiques sur le nombre de victimes de traite identifiées, notamment celles qui sont destinées à la traite pour l'exploitation commerciale dans le sexe, ou celles qui ont été référées également aux services appropriés, dans des centres d'accueil, services médicaux, etc. Avez-vous des données sur le nombre d'affaires qui ont donné lieu à des poursuites, le nombre de personnes condamnées et les réparations fournies aux victimes, telles que par exemple des indemnisations? Question sur le paragraphe 17, traitement des étrangers. Nous allons parler de l'apatridie essentiellement. Dans le rapport périodique, l'État parti dit que toute personne née au Suriname doit être déclarée, enregistrée dans le registre civil dans un délai particulier, quel que soit le statut de la personne. Nous en prenons bonne note. Mais d'après les allégations que nous avons reçues, il y aurait encore certaines barrières à l'accès à l'enregistrement des naissances, notamment une question financière et le manque de politique et de loi pour faire en sorte que les procédures d'enregistrement des naissances soient faciles et compréhensibles pour tout un chacun, notamment les personnes qui ne parlent pas la langue nationale. Ainsi, il semblerait que certains enfants nés de parents vénézuéliens ou cubains rencontrent des barrières pratiques pour accéder à l'enregistrement des naissances, à l'identité légale et aux documents de citoyenneté dans l'État parti. Alors, pouvez-vous nous dire ce que vous entendez faire pour que ces barrières disparaissent à l'heure d'accéder à l'enregistrement des naissances et pour que dans toutes circonstances, les étrangers et les apatrides puissent jouir des mêmes droits et du même traitement que les citoyens du pays? Pouvez-vous nous dire s'il y a une procédure de détermination de l'apatridie et si vous avez une politique ou une loi qui permet que ces procédures, que les procédures d'accès à l'enregistrement des naissances soient facilitées et soient accessibles. Est-ce que l'État parti peut nous dire s'il a l'intention d'améliorer son cadre législatif à propos de l'apatridie en adhérant à la Convention de 1954 sur le statut des personnes apatrides et à la Convention de 61 sur la réduction de l'apatridie afin de mieux s'acquitter de ses obligations découlant des articles 2 et 24 du pacte? Nous passons maintenant aux questions relatives au paragraphe 22, droit de l'enfant. Dans votre rapport périodique, vous dites qu'il n'y a pas de législation interdisant le châtiment corporel dans l'État parti, même si il y a certaines dispositions qui, dans le code pénal et la loi sur la violence intrafamiliale, aborde cette question. Mais il faut une loi spécifique pour interdire les châtiments corporels et il faudrait que l'État parti s'en dote en collaboration avec l'ONG. Vous dites que vous avez l'intention de le faire. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le contenu de cette loi en gestation et si vous avez l'intention d'adopter une législation pour exclure toutes les formes de châtiment corporel, quel que soit le contexte. Dans votre réponse à la liste de points et de questions, vous citez les différentes mesures prises par l'État pour prévenir les abus contre les enfants, notamment les abus sexuels, moyennant par exemple des programmes de sensibilisation dans les différents secteurs de la société. Vous avez mis en place des lignes téléphoniques directes pour identifier les cas d'abus sexuels dans les communautés locales. Vous avez aussi adopté un plan d'action national et la formulation d'un projet de loi sur les familles d'accueil. Mais il semblerait que beaucoup d'enfants sont victimes d'abus physiques et psychologiques. Et d'après un rapport récent, 80% des enfants jusqu'à 14 ans souffrent d'abus physiques ou psychiques, alors que 70 000 enfants ont été l'objet d'abus, dont seuls 400 cas ont été signalés. Alors, quelles mesures prévoyez-vous de prendre au vu de cette situation pour que tous les cas fassent l'objet d'une enquête, que les coupables soient poursuivis et sanctionnés, et pour que les enfants victimes aient accès à des réparations adéquates, notamment des soins spécialisés? Voilà, j'en ai terminé avec mes questions. J'attends avec impatience vos réponses.